VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Eric Manilakidza, en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Ravi d'être avec vous et bienvenue dans cette édition de 18h30 temps universel. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui du mardi 26 septembre 2017. Voici d'abord le sommaire. L'Angola, un nouveau président, José Eduardo dos Santos, cède le pouvoir à João Lourenço après 38 ans de règne. L'opposition kényane dans la rue contre la commission électorale. En Côte d'Ivoire, les victimes des déchets toxiques de 2006 réclament toujours des condamnations et réparations.
Nous demandons simplement que le droit soit dit sur la question.
Et au Tchad, réformes institutionnelles en vue.
Aujourd'hui, les réformes qui se font, ça prend en partie quelques-unes de nos préoccupations.
Vous aurez les détails de notre correspondant André Kodmajingar. Washington change de ton sur le nucléaire nord-coréen et veut un règlement pacifique. Retrouvez Nicolas Pinault pour votre page d'espoir et Jacques Aristide pour l'actualité économique, juste après le journal. Nouveau président en Angola. Après 38 ans, la tête du pays, le président José Eduardo dos Santos a passé le relais à son dauphin, João Lourenço. La prestation de serment du troisième chef de l'État angolais s'est tenue sur la place de la République de Luanda, la capitale. Les détails de Morgane Guiriec.
José Eduardo dos Santos, 75 ans, à la santé fragile, avait surpris cette année en annonçant qu'il ne briguerait pas un autre mandat. Aujourd'hui, il a passé le relais à un général à la retraite d'une loyauté absolue vis-à-vis du MPLA, le parti au pouvoir. Devant des milliers de supporters et en présence de plusieurs dirigeants africains, dont le Rwandais Paul Kagame et le Sud-Africain Jacob Zuma, João Manuel Gonçalves Lourenço, ancien ministre de la Défense, a juré de se consacrer pleinement aux fonctions qui lui incombent. Âgé de 63 ans, il a fait de la relance de l'économie sa priorité, s'engageant à promouvoir l'emploi et lutter contre la pauvreté. La tâche s'annonce ardue, la chute des cours du pétrole, qui fournit à l'Angola 70% de ses recettes, a plongé le pays dans une grave crise économique.
Morgane Guiriec. Au Nigeria, le ministre de l'Information a déclaré que le président Muhammadu Buhari n'a aucune obligation de dévoiler la nature et le coût de son traitement médical à Londres. Des membres de la société civile nigériane veulent connaître le montant de la facture pour l'avion médicalisé, le séjour de plusieurs mois à Londres. L'opposition a affirmé que le président Buhari a un cancer de la prostate, ce qui a été démenti. Un tribunal du nord-est du Nigeria a inculpé 10 personnes pour troubles à l'ordre public. Elles avaient mené dimanche une manifestation pour revendiquer de meilleures conditions de vie dans un camp de déplacés. Le président de l'Association pour le développement des jeunes de Bama a fait une demande de libération sous caution qui a été refusée. Au Sénégal, 15 ans après le naufrage du Jola, les proches des victimes ont réclamé justice lors de cérémonies à Dakar et à Ziguinchor. Le ferry qui faisait la navette entre la Casamance dans le sud et Dakar a chaviré lors d'une tempête dans la nuit du 26 septembre 2002 au large de la Gambie et avait fait quelques 1900 morts. En Côte d'Ivoire, des hommes armés ont attaqué un commissariat de police. Ils ont visé le commissariat du 34e arrondissement et se sont emparés d'armes dans le quartier populaire d'Abobo, dans le nord d'Abidjan. Ils ont mis les policiers en fuite, mais sans faire de dégâts corporels. Cette attaque survient après une série d'attaques ces derniers mois dans le sud du pays. Toujours en Côte d'Ivoire, des agents de santé, médecins, infirmiers, sages-femmes sont en grève et paralysent le plus important hôpital de Boaké, la deuxième ville de Côte d'Ivoire. Ils réclament une prime pour compenser l'augmentation de leur charge de travail générée par la gratuité des soins pour les plus démunis instaurée par le président Alassane Ouattara. Il y a un mois, une grève des prestataires avait déjà bloqué les activités de cet hôpital. En Centrafrique, quelques 23 000 personnes ont fui Botcharanga et Niem. Ces deux villes du nord-ouest du pays sont en proie aux violences. Eki Abadou.
Selon le Bureau des Nations Unies pour les Affaires Humanitaires, 15 000 habitants de Botcharanga et 8 000 de Niem se sont réfugiés dans la brousse pour fuir des violences. Samedi, des hommes armés du groupe 3R ont attaqué Boko Haranga malgré la présence de casques bleus dans la zone. Pour l'heure, il est difficile de faire un bilan. Le mouvement armé des 3R, apparu fin 2015, prétend protéger la communauté Peul contre les attaques des milices anti-Balaka. La Centrafrique est en proie à des violences continues depuis 2013. Si un calme relatif existe à Bangui, ce n'est pas le cas à l'intérieur du pays. À la mi-septembre, le nombre de réfugiés et de déplacés a atteint son plus haut niveau, avec plus d'un million de personnes qui ont fui leur domicile sur quelque 4,5 millions d'habitants. À la tribune de l'ONU la semaine dernière, le président Faustin Archange Touadéra a appelé la communauté internationale à ne pas oublier la Centrafrique.
Au Kenya, la police a usé de gaz lacrymogène pour disperser une manifestation de l'opposition contre la commission électorale à Nairobi. N'est-ce pas, Solange Nyamulis?
Quelques 300 partisans de l'opposition se sont rassemblés près des locaux de la commission électorale, appelant à la démission de son directeur exécutif, Ezra Chiloba. Une centaine de partisans du président Kenyatta sont également venus sur place. Il y a eu des jets de pierre et la police a dispersé manu militari les deux groupes. Un autre rassemblement a eu lieu à Kisumu, bastion de l'opposition dans l'ouest du pays. L'opposition réclame une réforme en profondeur de la commission électorale. Uhuru Kenyatta a exclu toute réforme de cette institution. L'opposant Raila Odinga a annoncé que ces manifestations sont le début d'une campagne pacifique pour exiger la démission de plusieurs responsables de cette commission et un changement de fournisseur du matériel électoral. Une menace de boycotter le scrutin si ces exigences ne sont pas satisfaites. Le 1er septembre, la Cour suprême a invalidé la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta. Une nouvelle élection est prévue le 26 octobre.
Des députés ougandais en sont venus aux mains dans l'hémicycle. L'empoignade a opposé des députés de la majorité à leurs homologues de l'opposition. Nombre de cris et de coups de poing, de poings mal ajustés ont été échangés, des dossiers ont volé et au moins un député a lancé une chaise qui a manqué la personne qu'il visait. Les députés du parti au pouvoir étaient censés soutenir une motion pour supprimer la limite d'âge des candidats au poste de président. La motion n'a finalement pas été débattue. Cet amendement permettrait au chef de l'État, Yoweri Museveni, de briguer un sixième mandat en 2021. Au Soudan du Sud, au moins 7,6 millions de personnes ont besoin d'aide. L'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, a parlé de statistiques effrayantes, ajoutant que la situation s'aggrave chaque mois et doit se rendre en octobre à Juba à la demande du président américain Donald Trump.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une session de pourparlers entre parties rivales libyennes s'est ouverte en Tunisie sous l'égide du nouvel émissaire de l'ONU, Ghassem Salamé. La semaine dernière, il a présenté sa feuille de route aux Nations Unies pour tenter de sortir le pays du chaos. Ces nouvelles négociations doivent se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine à Gamaf, dans la banlieue de Tunis. Le secrétaire d'État américain à la Défense, Jim Mattis, a adopté un ton d'apaisement vis-à-vis de Pyongyang. Le général Mattis a assuré que Washington veut une solution diplomatique à la crise du nucléaire nord-coréen. Pékin avait déjà prévenu qu'il n'y aurait pas de vainqueur à une guerre. Les précisions de John Lyndon.
La tension est montée d'un cran. Pyongyang accuse Washington de lui avoir déclaré la guerre. Le pays de Kim Jong-un s'est dit prêt à se défendre, promettant d'abattre des bombardiers américains. La Maison-Blanche dément avoir tenu des propos belliqueux. Quelques heures plus tard, à New Delhi, en Inde, James Mattis, patron du Pentagone, précise que le but des États-Unis est de résoudre cette situation de manière diplomatique. C'est un geste d'apaisement en pleine escalade verbale entre M. Trump et Kim Jong-un. La Corée du Nord a procédé à un sixième essai nucléaire et de multiples tirs de missiles qu'elle justifie par la nécessité de se protéger de Washington. Personne ne sortirait vainqueur d'une guerre, a averti la Chine, voisine de la Corée du Nord, dont elle est le principal allié.
John Lyndon, le président américain Donald Trump a annoncé qu'il se rendrait le 3 octobre à Porto Rico, dévasté par l'ouragan Maria. Monsieur Trump avait rapidement réagi quand les ouragans Harvey et Irma avait fait des dégâts au Texas et en Floride. Il s'était à chaque fois déplacé sur les zones touchées. En réquisitoire du président français Emmanuel Macron pour une Europe plus simple et moins bureaucratique, dans un discours passionné de plus d'une heure et demie à la Sorbonne, le patron de l'Élysée a affirmé que l'Europe n'avait pas le choix si elle voulait exister face à la Chine ou les États-Unis, mais aussi résister à l'obscurantisme que portent les partis nationalistes. Monsieur Macron a estimé qu'il faut donner à l'Union européenne une nouvelle ambition. Au Madagascar, le directeur d'une radio indépendante Jupiter a été condamné à 2 ans de prison avec sursis pour faux et usage de faux. C'est la première condamnation d'un journaliste sur la grande île depuis plus de 40 ans. Fernand Cello a été reconnu coupable de vol de chèques ainsi que de faux et usage de faux. Pour rappel, je vous le disais donc qu'en Ouganda, les députés n'ont pas pu débattre de la motion pour supprimer une disposition constitutionnelle qui limite l'âge pour les candidats à la présidentielle. Ils se sont venus aux mains dans l'hémicycle et cet amendement pourrait permettre au chef de l'État actuel de Yoweri Museveni de briguer un 6e mandat en 2021. Il est au pouvoir depuis 1986. Au Soudan du Sud, c'est un rappel, au moins 7,6 millions de personnes ont besoin d'aide. L'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, a parlé de statistiques effrayantes, ajoutant que la situation s'aggrave chaque mois et doit se rendre en octobre à Juba à la demande du président américain Donald Trump. Et en Côte d'Ivoire, vous l'avez suivi, des hommes ont attaqué un commissariat de police. Ils ont visé le commissariat du 34e arrondissement et se sont emparés d'armes dans le quartier populaire d'Abobo, dans le nord d'Abidjan. Ils ont mis des policiers en fuite, mais sans faire de dégâts corporels. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, ce soir, c'est avec Jacques Aristide.
Ouverture ce mardi d'un colloque international d'échanges scientifiques sur la NARCAD à Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Pendant 3 jours, les participants venus de 18 pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe partageront les résultats de leurs recherches sur la génétique, les variétés et la qualité de la noix de cajou. Les pays africains présents cherchent notamment à voir comment ils peuvent améliorer la production et la transformation du cajou. Le Fonds monétaire international se dit satisfait des réformes engagées par l'Égypte avant le déblocage dans les prochains mois d'une nouvelle tranche de son prêt de 12 milliards de dollars sur 3 ans. En novembre, le Caire a notamment décidé de laisser flotter sa devise et réduire les subventions d'État. Le programme gouvernemental La Solidarité et Dignité offre un léger soutien financier à près de 2 millions de foyers. Le FMI a déjà versé à l'Égypte 2,75 milliards en novembre et 1,25 milliard en juillet. Le leader mauricien des télécommunications, Mauritius Telecom, ne veut plus se limiter au marché mauricien. La compagnie vient d'annoncer une stratégie africaine qui devra lui permettre d'investir dans des pays du continent. L'opérateur s'en croit capable, surtout après son chiffre d'affaires record de plus de 10 milliards de roupies réalisé l'an dernier. Mauritius Telecom vient également de signer un accord pour l'utilisation d'un nouveau câble sous-marin de fibre optique qui va relier l'île Maurice, la Réunion et l'île Rodrigue à l'Afrique du Sud et à l'Inde.
Merci Jacques pour l'actualité économique. Nous passons au sport avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nico.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Ce soir Nicolas, c'est la 2e journée de la Ligue des Champions en Europe.
L'armada du Real Madrid, double tenant du titre, se rend sur la pelouse du Borussia Dortmund, très en forme. Ce sera ce soir, lors de cette 2e journée de la Ligue des Champions, qui verra également s'affronter Manchester City et Pep Guardiola. Ils recevront les Ukrainiens de Shakhtar Donetsk. Autre rencontre, le FC Séville face à Maribor. À noter aussi Monaco qui accueillera Porto. Les monégasques demi-finalistes de la saison dernière avaient commencé par un nul encourageant sur le terrain de Leipzig. Un but partout, Leipzig qui se déplace chez le Beşiktaş à Istanbul en Turquie. Autre rencontre, Liverpool qui se rendra chez les Russes du Spartak Moscou. Naples contre Feyenoord et l'Apoel Nicosie contre Tottenham.
Quels sont les autres rencontres de demain, Nico?
Le Paris Saint-Germain s'est offert Neymar pour franchir un cap en Ligue des Champions. Première réponse, demain, face au Bayern Munich au Parc des Princes. L'autre choc de cette deuxième journée demain va opposer l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann à Chelsea dans le nouveau stade des Colchoneros, le Wanda Metropolitano, et ses 68 000 places. Parmi les autres rencontres, Manchester United se rend sur la pelouse du CSKA Moscou, la Juventus Turin reçoit l'Olympiakos et le FC Barcelone se déplace chez le Sporting Portugal.
C'était les sports de Nicolas Pino.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manilakidza, deuxième partie de cette édition pour aborder les dossiers du jour. Ici même aux États-Unis, Donald Trump avait promis pendant sa campagne d'expulser des millions d'immigrés clandestins le 30 août. Une vingtaine de Sénégalais vivant illégalement sur le sol américain ont été expulsés vers Dakar à bord d'un vol shelter et sous escorte policière. Pour savoir le nombre de Sénégalais vivant aux USA qui seront touchés par ces déportations, Idriss Fall a eu un entretien exclusif avec l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Tulinabo Mushingui.
Nous avons beaucoup de Sénégalais aux États-Unis. Ce n'est pas l'administration Trump. Les lois existaient avant que Trump ne soit élu. Ce que nous sommes en train de faire, c'est d'appliquer les lois d'immigration qui existent. Là, ce n'est pas seulement les Sénégalais. Et chaque fois que quelqu'un qui est hors la loi, suivant nos lois d'immigration, ils sont retenus. On a le droit de parler au juge. Il y a le système de recours. Et une fois que tout ça est épuisé, la personne est priée de quitter le pays. Nous espérons que les gens qui ont des personnes dans cette situation prennent cette loi sérieusement et prennent des précautions pour quitter le pays avant que ce ne soit trop tard. La voie la plus facile, bien sûr, c'est le vol commercial. S'il y a des Américains ici qui ne sont pas en règle suivant l'immigration, je leur demande aussi d'essayer de se mettre en ordre ou de quitter le pays.
Progression des mouvements terroristes. Le Sénégal, jusqu'à maintenant, est plus ou moins épargné. Quel type de coopération il y a entre les États-Unis et le Sénégal dans la lutte contre le terrorisme?
Le terrorisme, malheureusement, est devenu un fléau rampant partout au monde. Bien sûr, on peut dire que le Sénégal a été épargné jusqu'à présent, mais nous venons de voir ce qui vient de se passer au Burkina Faso pour la deuxième fois. Nous avons vu ce qui s'est passé en Espagne dernièrement. Les défis transnationaux nécessitent des réponses transnationaux. Aucun pays au monde ne peut combattre le terrorisme seul. Nous tous, nous devons nous serrer les coudes pour combattre ce fléau. Au Sénégal, nous avons des programmes clés pour non seulement travailler sur la formation, mais aussi travailler sur l'équipement et travailler sur la bonne gouvernance. Il y a quelques années, aux États-Unis, nous parlions de 3D, diplomatie, développement et défense. Au niveau de la défense, bien sûr, c'est du côté militaire, du côté sécurité proprement dite. Je disais, il faut la formation, les équipements, etc. Mais au niveau diplomatie, il faut que la politique du bon voisinage d'abord pour défendre nos frontières. Vous savez que le Sénégal est membre maintenant du Conseil de sécurité pour cette année, et pour que les pays puissent partager leurs renseignements. Qui parle quoi, qui dit quoi, etc. Qu'est-ce qu'on connaît. Et enfin, le développement, bien sûr, parce qu'un peuple qui a des moyens ne va pas être susceptible à aller vers le côté extrémisme violent. Et un pays qui est développé va pouvoir s'auto-défendre, se lier à d'autres pays qui pensent de la même façon. Et c'est pourquoi cette coopération va continuer, et ça c'est une priorité pour nous et c'est une priorité pour le Sénégal.
Tulinabo Mushingui, ambassadeur américain au Sénégal.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
En Côte d'Ivoire, les victimes de l'affaire Proboko Koala se tournent de nouveau vers la justice néerlandaise. Plus de 100 000 personnes ont été victimes du déversement de déchets toxiques par le cargo Probo Koala à Abidjan en 2006 et réclame la condamnation de la société affréteuse Trifigura et le versement d'indemnités. Yacouba Ouedraogo a joint le président de l'association des victimes de Probo Koala, Denis Yao.
Nous demandons simplement réparation. Nous demandons reconnaissance des faits, des crimes contre l'environnement et des crimes contre les populations depuis cette année 2006. Donc nous demandons simplement que le droit soit dit sur la question.
Ce n'est pas la première fois que vous demandez à la justice des Pays-Bas de condamner la société Trafigura à payer des indemnités aux victimes. Vous avez été débouté en 2016 notamment. Quelle est la particularité de cette nouvelle demande?
Il y a eu deux plaintes qui ont eu un souci de forme. La première plainte parce que simplement les personnes n'avaient pas droit d'ester en justice en Hollande. La seconde a été déboutée parce qu'on estimait que la fondation qui avait engagé l'action ne représenterait pas de façon crédible l'intérêt des victimes. Nous, nos experts et nos avocats avions sérieusement travaillé sur cette dernière. Nous avions pleinement espoir que la justice va valider une poursuite en fond contre le pollueur. Parce que toutes ces questions ont pu être résorbées dans cette troisième action que nous avons engagée.
Est-ce qu'on peut parler des questions justement que vous avez résorbées dans cette troisième action?
Nous avons un procès déterminant demain. Nous souhaitons garder confidentiels nos argumentaires.
En février 2007, la société Trafigura a conclu un accord amiable avec l'État ivoirien qui prévoit l'arrêt des poursuites contre cette société en contrepartie du versement d'une indemnisation de 100 milliards de francs CFA. Pourquoi vous revenez à la charge?
Trafigura a porté atteinte à l'environnement de la Côte d'Ivoire, de la population et particulièrement des personnes qui ont été contaminées individuellement. L'État était en droit de négocier pour les préjudices qu'il a subis, mais l'État ne saurait se substituer individuellement aux préjudices commis à chacun des membres de sa population. Donc aujourd'hui, nous estimons que le juge doit pouvoir rendre recevable cette question afin de juger individuellement cette question de préjudice causé aux personnes vivant en Côte d'Ivoire.
Denis Yao, président de l'association des victimes de Probo Koala.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Tchad, l'organe technique du Haut Comité des réformes institutionnelles a finalisé la relecture de toutes les propositions issues des consultations régionales et sectorielles tenues il y a 6 mois. Ce projet de rapport élaboré par le sous-comité technique a été adopté et sera ensuite transmis au Haut Comité. Cette instance politique d'orientation pour des réformes institutionnelles doit donner son avis avant que le document ne soit examiné au forum. La correspondance à N'Djamena, signée André Kodmajinga.
Une soixantaine de propositions figurent dans ce projet de rapport, entre autres la réduction de moitié du nombre des régions entraînant la suppression des départements et des communautés rurales, la suppression des grandes institutions jugées budgétivores telles que le médiateur de la République, le Conseil économique et le Collège des contrôles des revenus pétroliers. Cependant, 3 regroupements des partis politiques de l'opposition affichent leur couleur dans un communiqué de presse conjoint. Ils ne participeront pas à ce forum qu'ils qualifient de la promesse électorale du candidat Déby. Dimain, Clément Bagao, président du Parti démocratique du peuple tchadien, l'un des candidats malheureux à la dernière élection présidentielle et membre du dit regroupement, a déclaré qu'il ne va pas faire une politique de la chaise vide alors que son porte-parole adjoint a contresigné le document en rejetant la tenue du forum.
Nous ne sommes pas venus pour simplement valider. Nous sommes là pour apporter notre contribution. Mes anciens amis, ils étaient là. On avait rédigé un référendum dans lequel on demandait des réformes. Aujourd'hui, les réformes qui se font, ça prend en partie quelques-unes de nos préoccupations et nous avons dit qu'il faudrait qu'on observe, voir est-ce qu'effectivement il y a une volonté de traduire dans les faits les réformes annoncées. Nous ne sommes pas venus simplement pour avaler les couleuvres restées. Ça, nous mettions quiconque au défi.
Sur le plan judiciaire, il a été proposé la réforme profonde de la justice avec la création d'une justice militaire et de cours de répression de crimes économiques et financiers. Là aussi, 2 syndicats des magistrats se disent être écartés de toutes les discussions alors que la réforme judiciaire nécessite leur implication. Al Rakete Sanengar est le président du syndicat des magistrats du Tchad.
On nous a invités à une seule rencontre où il était question de discuter un peu les textes sur le Conseil supérieur de la magistrature. Nous avions les deux syndicats. On avait relevé les manquements qu'il y a dans le texte là. Parce qu'on a un ancien texte qui était en vigueur normal, un très bon texte d'ailleurs, mais que pour les besoins de la cause, les gens ont modifié rapidement les dispositions pour l'adapter à leurs besoins, donner le pouvoir au ministre de sanctionner les magistrats quand il veut, comme il veut. Les gens ont observé qu'on avait été très déterminés à changer les choses. Maintenant, ils ont commencé à nous contourner.
Ils demandent incessamment l'arbitrage du président de la République, Idriss Déby Itno.
Mais il est clair que les magistrats ne s'y reconnaîtront pas dans ces textes-là si les gens adoptent tel quel. C'est pourquoi nous avons demandé au chef d'État, il faut qu'il agisse avant qu'il ne soit trop tard. Les gens vont à la va-vite, les textes vont être adoptés et c'est une manière d'assommer une fois pour toutes la magistrature tchadienne. Il faut qu'il intervienne en ce moment-là, parce que les gens sont en train d'envahir la justice entière en prison.
André Godmima Djingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, Ndjamena au Tchad sur 93.1 FM.
Le oui à l'indépendance devrait l'emporter au référendum organisé hier au Kurdistan irakien. Mais le gouvernement fédéral d'Irak a déjà exclu toute discussion sur la sécession du Kurdistan irakien. La Turquie et l'Irak ont aussi haussé le ton aujourd'hui pour contester la validité de cette consultation. Le gouvernement turc, brandissant explicitement la menace d'une intervention armée pour étouffer cette initiative, dont il redoute l'effet de contagion. Pour une analyse, Jacques Aristide s'est entretenu avec Didier Bignon, spécialiste du Moyen-Orient à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques.
Cette large majorité de oui ne veut pas automatiquement dire qu'il y aura tout de suite, immédiatement, proclamation de l'indépendance du Kurdistan. Monsieur Barzani avait très bien expliqué au cours de l'été dernier qu'il irait jusqu'au bout de son processus référendaire, ce qu'il a fait, mais que par ailleurs, cela ne signifiait pas immédiatement la sécession d'avec la République fédérale d'Irak. Donc, vous voyez, il y a deux éléments qu'il faut bien distinguer. Ça a pour fonction de conforter les autorités politiques kurdes, incontestablement. Ça a pour fonction de franchir une nouvelle étape dans la voie de l'indépendance. Pour autant, je pense que ce serait aller trop vite en besogne que de considérer que cette indépendance va être proclamée immédiatement parce qu'il y a beaucoup trop d'obstacles.
Mais la consultation, décision qualifiée d'unilatérale du président du Kurdistan, Massoud Barzani, a déjà fait réagir le gouvernement fédéral irakien qui prépare sa riposte. Faut-il craindre une escalade avec Bagdad?
Et évidemment, oui, il y a une crainte. Alors, si, je dis bien si, l'indépendance s'était proclamée, je pense qu'il y aurait malheureusement une intervention militaire qui serait en outre facilitée, si je puis dire, par la position des pays immédiatement voisins de l'Irak, c'est-à-dire la Turquie, dont nous savons qu'elle est contre le processus d'indépendantisation, et l'Iran, dont nous savons qu'elle est aussi contre le processus d'indépendantisation. C'est-à-dire que les Kurdes, en organisant ce référendum, jouent très gros. Ils risquent non seulement une confrontation armée avec Bagdad, mais par ailleurs, ils risquent de se voir attaqués par la Turquie et l'Iran, ou au mieux, mis sous embargo. Donc cette décision est très lourde de conséquences, et je ne suis pas pour ma part certain que les dirigeants kurdes en aient mesuré toutes les conséquences. Nous sommes donc là dans une période de transition dont le dénouement pourrait être dramatique.
Le référendum a également été condamné par les Occidentaux et l'ONU. Est-ce finalement un projet qui fait l'unanimité contre lui?
Oui, vous avez parfaitement raison, mais il y a aussi une forme d'hypocrisie, notamment de la part des puissances occidentales, parce que les Européens, alors dans leur diversité, mais la France en premier, et puis les États-Unis, pendant toute une époque, ont véritablement favorisé tout ce qui pouvait, en termes de processus, aboutir à l'indépendantisation, notamment depuis 2003, depuis la chute du régime de Saddam Hussein. Donc on est là dans une situation où je crois que les Kurdes d'Irak risquent de se retrouver une nouvelle fois comme trahis par ceux qui les ont soutenus depuis plusieurs années. Ce serait alors une répétition tragique de ce qu'ils ont déjà connu à plusieurs reprises. Je crains fort que les Kurdes d'Irak ne se retrouvent dans cette situation s'ils vont jusqu'au bout de leur processus, c'est-à-dire la proclamation d'un État kurde indépendant.
C'était Didier Billon, directeur adjoint de l'IRIS, joint à Paris. C'est la fin de cette édition. Lionel Onanela Garima sur la mise en onde. Bill Barber à la console. Présentation Eric Manirakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. Profitez de votre vie et vous accorde une seconde chance qui s'appelle demain. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. À bientôt.